Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au patrimoine culturel mondial. Ici, richesse en voie de disparition, là, bien en péril pour cause de guerre, de pillage, de volonté destructrice. Afghanistan, Irak, Mali, Yémen, Syrie, Libye, autant de pays ravagés par des conflits qui s'éternisent. Aux tragédies humaines viennent s'ajouter les menaces sur l'histoire de ce qui constitue nos plus anciennes civilisations. Une conférence internationale pour la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit s'est récemment tenue à Abu Dhabi avec l'ambition de créer un fonds de lutte contre le pillage du patrimoine culturel et d'assistance à la restauration ou réhabilitation. Regard sur ce qui apparaît aujourd'hui comme une véritable hémorragie archéologique entre destruction volontaire et dégradation liée aux affrontements. État des lieux avec nos invités. Nada Al-Hassan, chef d'unité des États arabes au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Pierre Perrin, spécialiste du Moyen-Orient, longtemps grand reporter pour le quotidien Libération, auteur de « Menaces sur la mémoire de l'humanité, site en péril de l'Afghanistan à la Syrie », paru aux éditions Ebec. Bonjour.
Bonjour.
Afghanistan, Irak, Syrie, Mali, Yémen, Libye, la destruction du patrimoine semble être devenue une règle, là où ce qui s'est passé il y a quelques années en Afghanistan semblait relever de l'exceptionnel. De quoi est-il question avec ces destructions? Distinction devant être faite, Jean-Pierre Perrin, entre destruction intentionnelle et non intentionnelle, mais finalement, à quoi assiste-t-on?
On assiste à une volonté délibérée d'en finir avec toute une part du patrimoine de ces cinq pays. Donc, vous les avez rappelés, la Libye, le Yémen, la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Tout a commencé, évidemment, en Afghanistan en mars 2001 par la destruction des trois grands Bouddhas de Bamiyan à l'initiative des talibans. Alors, on a pu croire sur le moment que c'était une arrière-garde fondamentaliste du sous-continent indien qui faisait sauter les Bouddhas. Vieille tradition d'ailleurs de s'en prendre aux ruines et aux choses antiques en Afghanistan. Hein. La destruction du très beau musée de Kaboul par les talibans, qui était l'un des plus beaux musées d'Asie, eh bien, ce musée avait déjà été détruit en 1927 ou 29 dans les mêmes conditions. Donc, mais ce qui était nous semblait une arrière-garde, en fait, s'est généralisé et nous avons une destruction du patrimoine maintenant dans les quatre autres pays.
Nada Al-Hassan, comment expliquer finalement cette haine des ruines, ce djihad d'une certaine manière contre la mémoire de l'humanité? C'est quoi? C'est détruire tout ce qui a précédé l'islam?
La destruction intentionnelle du patrimoine a toujours existé. Il y a eu une montée en récrudescence ces dernières cinq années, donc quelques années après la destruction du Bouddha de Bamiyan. Et dans ces cinq dernières années, et maintenant qui deviennent une sixième année malheureusement, le patrimoine a été une cible et a été une arme de guerre, une arme pour gagner la guerre psychologique, pour anéantir l'identité des communautés, pour gagner du terrain, pour détruire donc aussi bien le moral des troupes ennemies que des gens, donc, et les terroriser, donc mieux les dominer. Et ce phénomène d'utilisation du patrimoine pour gagner une guerre, c'est quand même assez nouveau et c'est la caractéristique principale de ces destructions intentionnelles, au-delà des motifs idéologiques, je pense.
Jean-Pierre Perrin.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces destructions, il y a un fond idéologique commun, un fond... pour faire simple, islamiste, fondamentaliste, peu importe. Mais il y a aussi, pour chaque destruction, une spécificité. Nous avons les deux. Par exemple, la raison pour laquelle les Bouddhas de Bamiyan ont été détruits, c'est effectivement parce que ils étaient considérés comme des statues, des idoles, mais en même temps, il y avait la volonté de s'attaquer à la région qui accueillait ces Bouddhas, c'est-à-dire le Hazarajat, peuplé de Hazara, contre lesquels les talibans ont une haine viscérale, une haine motivée parce que c'est une ethnie minoritaire méprisée en Afghanistan, qu'on la suspectait de vouloir atteindre une autonomie qui était insupportable pour les Pashtuns. Enfin, les talibans sont majoritairement Pashtuns. Et ensuite, parce que les Hazara sont chiites, donc hérétiques. Vous voyez, c'est une conjugaison de raisons. Il n'y a jamais une seule raison particulière quand on détruit ce patrimoine. Alors, c'est totalement différent avec palmyres. Là aussi, on a un vieux fond commun. Pourquoi on les détruit? Parce que ce sont des idoles, parce qu'ils représentent un pan de la civilisation de ces régions qu'on veut anéantir, mais aussi parce que, pour le cas de Palmyre, c'est emblématique d'une culture qu'on veut voir abolir, une culture qui est grosso modo la culture occidentale, la culture gréco-romaine, matinée avec un certain nombre d'autres cultures qui ont fait la richesse de Palmyre. Vous voyez, il y a toujours une conjugaison de facteurs.
Alors, est-ce que ce que vous dites sur Palmyre peut être transposé à ce qu'a connu le Mali avec la destruction des mausolées de Tombouctou, Jean-Pierre Perrin?
Encore différent, encore cas de figure différent. Les mausolées de Tombouctou sont attaquées, ont été détruits parce qu'ils représentaient un courant au sein de l'islam qui n'est pas acceptable pour le courant au sein des islamistes, appelons-le salafiste, wahhabiste ou peu importe. Mais donc, on s'est attaqué au culte des saints dont Tombouctou était particulièrement emblématique. Vous voyez, encore, nous avons une spécificité locale.
Nadal Hassan.
Moi, je trouve que il faut justement mettre un peu les choses à leur place par rapport à cette guerre contre, entre guillemets, la culture occidentale. Parce que, comme vous l'avez signalé au Mali, c'était donc des musulmans contre d'autres musulmans. Il y a eu beaucoup de mausolées soufis, dont un du XIVe siècle, très précieux au Yémen, qui ont été démolis en Tunisie. Après la Révolution, beaucoup de mausolées soufis ont été détruits. En Libye, on a profané beaucoup de tombes dans les mosquées, etc., pour des motifs iconoclastes. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'une destruction du patrimoine gréco-romain, qui par ailleurs appartient aux peuples qui en sont responsables aujourd'hui, donc les Libyens, les Syriens, les Yéménites ou autres. Il s'agit vraiment d'anéantir la culture de l'autre. Et là, je voudrais réinsister sur la question du cynisme de ceux qui détruisent le patrimoine, parce que d'un côté, ils détruisent pour des motifs iconoclastes, de l'autre, ils fouillent illégalement et ils vendent des œuvres qui représentent des figures ou des femmes nues. Donc, il faut voir que tout ça est très, très bien pensé. Il est d'ailleurs mis en scène dans des vidéos, dans des scènes d'exécution publique, etc., d'une manière très étudiée. Et je voudrais donc signaler que il ne s'agit pas seulement d'une guerre d'idées. Il s'agit peut-être même pas d'une guerre d'idées. Il s'agit de gagner une guerre. Et puis ça, c'est une arme comme une autre. Moi, c'est ainsi que je le vois.
Alors, gagner une guerre, me vient cette question suivante, c'est l'argent, puisque Nadal Hassan parlait de ce commerce. Que sait-on, finalement, de ces ventes d'objets, de ces différents patrimoines, pour nourrir et alimenter la guerre en Syrie, en Irak, au Mali, en Libye, Jean-Pierre Perrin?
Oui, mais gagner de l'argent fait partie de la guerre. Je voudrais surtout pas qu'on voit leur façon de monnayer les richesses qu'ils pillent comme simplement une volonté d'enrichissement personnel. Ce n'est pas ça. Ça fait partie du butin, le butin propre les guerres en général sont l'occasion de gagner des choses, d'avoir un butin, et le djihad en particulier. La quête du butin fait intégralement partie du djihad. Et ça, c'est une représentation tout à fait conforme.
Et
si
cela finance la guerre.
Et cela finance la guerre,
bien sûr.
Cela finance la guerre. C'est pas du tout pour s'enrichir eux-mêmes, c'est pour financer la guerre.
Oui, je voulais rappeler que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté en février 2015 une résolution, la résolution 2199, par laquelle il empêche tout commerce d'œuvres en provenance d'Irak depuis 2003 et de Syrie depuis mars 2011. Suite à cette résolution dont l'UNESCO et Interpol sont chargés, question coordination, on a recensé 16 000 objets qui ont été déclarés par les pays limitrophes à la Syrie qui ont été saisis pour le trafic illicite. On a recensé 7 000 faux objets. Donc, en effet, c'est un commerce de la guerre. Il y a beaucoup d'objets qui n'ont pas été déclarés, qui ont été saisis ou non, vendus au marché noir. Et ça représente, en effet, un vrai marché. Mais l'évaluation de son montant reste impossible à faire, même s'il y a une équipe dédiée à ça aux Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et le trafic des œuvres d'art est considéré au même titre que la drogue, les armes ou le trafic des êtres humains.
Alors, on reviendra sur l'état des lieux, on reviendra en Syrie, sur savoir les informations que vous pouvez nous donner concernant les degrés de destruction à Palmyre. Juste, cette information qui semble tout de même avoir constitué un tournant dans les réactions qui commence à se faire jour au sein de la communauté internationale contre les destructions intentionnelles du patrimoine. La condamnation en septembre 2016 par la Cour pénale internationale à 9 ans de réclusion d'un Touareg malien pour la destruction des mausolées de Tombouctou, elle est à voir comme quelque chose d'important.
Alors je crois, oui. Alors c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de jugement, puisqu'il y a eu le célèbre pont en Croatie, hein, qui déjà avait suscité donc une action de la Cour pénale, le pont de Mostar. Mais là, effectivement, on reproche à un homme, Hassan al-Mahdi, les destructions des portes des mausolées, notamment, les sanctuaires, ont fait une action spécifique contre ce qu'il a fait, alors que l'homme est connu pour avoir perpétré d'autres crimes, notamment, il est suspecté notamment d'un certain nombre de viols. Mais vous voyez bien, on scinde les deux crimes et on le condamne déjà pour ceci. Donc, ce qui est un tournant. Alors, cela dit, ça ne va pas mettre fin du tout à aux destructions à venir. Hein. Je pense que la peur de ce tribunal ne compte pour rien. Mais néanmoins, c'était important que la communauté réagisse. Je veux dire, la condamnation est symbolique et je pense que c'est quand même un premier pas. Alors, il faudrait évidemment, c'est toujours le problème de la Cour pénale, il faudrait que ça se passe beaucoup plus vite parce que on juge beaucoup trop tardivement les faits. Mais là, c'est l'éternel problème.
En tout cas, la barbarie culturelle est aujourd'hui un crime de guerre, Nadal Hassan.
Oui, la barbarie est un crime de guerre et je dirais que malheureusement, ce n'est pas seulement au sein de la Cour pénale internationale qu'on résout ça. C'est vraiment dans l'éducation, dans la tête des gens, dans la manière dont sont formées des générations de jeunes dans ces pays. C'est pour cela que l'UNESCO a lancé une campagne qui s'intitule Unis pour le patrimoine, ou en anglais Unite for Heritage, qui est censée créer un mouvement virtuel sur Internet pour connecter les jeunes et les responsabiliser par rapport à leur patrimoine dans le futur. Maintenant, la condamnation de Hassan al-Mahdi, le Malien, à la Cour pénale internationale est certes très importante, c'est une avancée, c'est une première, mais moi je voudrais rappeler que ce monsieur s'est excusé pendant le procès. J'ai trouvé ça remarquable, au-delà de l'importance symbolique des 9 ans de réclusion. J'ai trouvé que c'était tellement important qu'un membre finalement de la communauté, parce que il est aussi malien et il représente beaucoup de gens là-bas, il s'est excusé en public pour avoir perpétré ces crimes. Il a dit même si je reste convaincu de mes idées, j'exprime mes excuses auprès des gens que j'ai pu blesser, etc. Je ne sais plus quels sont les termes précis qu'il a utilisés. Moi, je trouve que il faut essayer de saisir ces moments-là pour développer quelque chose au sein des communautés locales qui peuvent encore pencher d'un côté ou d'un autre, parce que la situation est très précaire. Même si on a jugé une personne sur place, les tensions restent très fortes. Et comment travailler avec les gens pour que ça change et ça ne se reproduise pas? Pour moi, ça, c'est le plus important.
Jean-Pierre Perrin.
Mais je voudrais juste revenir sur la destruction des Bouddhas de Bamiyan pour dire deux choses.
En Afghanistan.
D'abord, c'est une destruction qui a pris du temps. C'est-à-dire que ces Bouddhas ont fait l'objet d'une réunion de la Shura, du conseil autour du Mollah Omar, et on a débattu. On a donc des minutes du procès. On sait exactement ce qu'on reproche à ces Bouddhas, comme si c'était les procès d'hommes ou de femmes. Donc ça, c'est le premier point. Donc la communauté internationale a eu des mois, finalement, pour essayer de les en empêcher. Elle n'y est pas parvenue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la population. Puisque ces Bouddhas, qui sont quand même gigantesques, qui sont dans la falaise, qui font partie du paysage depuis 15 siècles, qui sont vraiment font partie de l'âme de l'Afghanistan, parce que sur les timbres, par exemple, du pays, on a eu longtemps
la représentation
du Bouddha. C'était la grande affiche de l'Office du tourisme afghan avant la guerre, c'était les Bouddhas. Donc, ils faisaient vraiment partie, vraiment, de la psyché afghane. La population, lorsque les talibans les ont détruits, finalement, peu lui importait. Évidemment, c'est embêtant, mais comme il n'y avait plus de touristes, ça n'a plus tellement d'importance. En revanche, ceux qui ont réagi, c'est ceux qui n'avaient pas connu les Bouddhas, ou très peu, c'est-à-dire les jeunes. Les jeunes ont ressenti ça comme une attaque contre leur identité, et du coup, ces Bouddhas que leurs parents finalement traitaient un petit peu à la légère, cavalièrement, ou même les identifiaient aux idoles du Coran, tout ça, bon, c'était pas très bien. Et donc, la jeunesse, elle, a pas toute, mais une partie quand même, en particulier celle qui est éduquée, considère que ces Bouddhas leur ont été pris, leur ont été arrachés, leur ont été volé et que leur identité a été attaquée et en partie détruite. Et ça, c'est important. Donc, on a un mouvement de culturel de réappropriation du passé de l'Afghanistan et une redécouverte de la civilisation gréco-bouddhiste que jusqu'à présent dans la région, hormis quelques archéologues locaux, tout le monde ignorait.
Nada Alassane. Oui, je voulais rappeler que durant les mois d'attente donc de cette destruction annoncée que mentionnait Jean-Pierre Perrin, l'UNESCO avait tenté de négocier, de trouver des émissaires. Plusieurs émissaires ont été envoyés pour négocier avec les talibans qui, à l'époque, avaient refusé catégoriquement de discuter avec l'UNESCO. Et cette situation est impensable aujourd'hui. Personne n'en verra qui que ce soit discuter avec Daesh pour les dissuader.
C'est déjà presque trop tard.
De toute façon, non,
les talibans avaient trois protecteurs, grosso modo, internationaux. Ils avaient le Pakistan, bien évidemment, puis ils sont en partie responsables de leur création. Il y avait les États arabes unis, qu'ils avaient reconnus. Il y avait l'Arabie saoudite, dont ils empruntent une grande partie de l'idéologie. Donc, je crois que c'était via le Pakistan, via l'Arabie saoudite qu'on pouvait arriver à quelque chose, c'est-à-dire à les empêcher. Je sais qu'il y a eu des médiations pakistanaises, par ailleurs, qui a échoué, mais je crois qu'il était quand même possible, alors c'est facile de le dire après, de les sauver via ces intermédiaires. Ils dépendaient totalement, finalement, de ces deux ou trois pays. Et je crois que là, la communauté internationale n'a pas été à la hauteur de l'enjeu.
Alors, la communauté internationale qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu, est-ce que l'on peut dire la même chose de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en Syrie? Qu'est-ce que l'on sait finalement des destructions? Je pense à Palmyre, je pense où là il y a eu vraiment destruction volontaire et involontaire, les deux. Alep peut-être plus involontaire, mais c'est une ville qui a disparu sous les effets de bombardements d'une intensité effrayante. Avec donc beaucoup d'émotions autour de tout cela. Qu'est-ce que l'on sait, Nada Alassane, de ce qui, voilà, des dégâts en Syrie, oui. Dégâts humains, on en parle au quotidien. C'est vrai que les dégâts physiques sont importants aussi.
Oui, les sites syriens ont été vraiment très endommagés avec cette guerre. La Syrie est peut-être le pays au Moyen-Orient où on a le plus d'informations sur les destructions, parce qu'il y a une direction des antiquités qui continue à exister et à être active, et parce que il y a énormément de chercheurs internationaux qui ont travaillé en Syrie et qui restent un relais pour avoir l'information. J'ai pu me rendre à Palmyre en avril dernier, après l'évacuation, je dirais, de Daesh du site, et j'ai pu constater donc exactement ce qui avait été relayé par Daesh dans les vidéos de propagande, c'est-à-dire la destruction des éléments les plus importants du site, qui sont le temple de Bel, de Baal Shamin, et puis l'arc de triomphe symbolique qui a été déjà remonté dans le passé. Mais là maintenant, voilà, le site a été repris par eux, et nous craignons le pire. Heureusement que le musée avait été évacué avant leur entrée, et encore une fois, là, en avril dernier, tout ce qui restait dans le musée et tout ce qui n'avait pas été évacué est maintenant évacué, donc au moins, on sait ça. Pour Alep, on a comparé avec les images satellites la situation entre mi-2015 et novembre 2016, donc avant les bombardements très 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 intenses de novembre à décembre dernier, et on a vu qu'il y a eu 20% de destruction de plus du centre historique d'Alep par rapport à il y a un an. Et là, vraiment, je ne sais pas ce qui reste du centre d'Alep, c'est à voir, mais je pense qu'il faut penser à une ville qui ressemble à Dresde ou à Berlin après la Deuxième Guerre mondiale.
On compare aussi avec Grozny, Jean-Pierre Perrin.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Simplement, ça procède souvent pas de la volonté des forces qui s'affrontent. Malheureusement, on se bat pour la ville, on se bat pour la vieille ville, et donc forcément, les monuments subissent le sort des humains, tout simplement. Et je pense pas qu'il y ait eu de volonté délibérée de faire sauter la mosquée ou les vieux hammams. Je crois que simplement c'est les conséquences de la guerre. Je crois que je fais donc une différence entre les deux situations.
Géopolitique. Nadal-Hazan.
Quoique, bien sûr.
Il y a eu, donc, pour des motifs aussi de stratégiques, entre guillemets, il y a eu des explosions souterraines extrêmement fortes qui ont vraiment effacé des portions entières du centre historique.
Mais pas avec la volonté de détruire le bâtiment en tant que tel.
Non, non, mais bon, ce sont des subtilités après tout.
Oui, oui, bien sûr. Si un tribunal, une cour internationale se penche sur ces questions, il faudra qu'ils en tiennent compte quand même.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Nadal Hassan et Jean-Pierre Perrin dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le patrimoine culturel mondial. Nous retrouvons nos invités Nadal Hassan, chef d'unité des États arabes au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, et Jean-Pierre Perrin, spécialiste du Moyen-Orient, longtemps grand reporter pour le quotidien Libération, auteur de Menaces sur la mémoire de l'humanité, sites en péril de l'Afghanistan à la Syrie, paru aux éditions Eubek. Nous avons beaucoup parlé de la Syrie dans la première partie de l'émission, avec la destruction de villes comme Palmyre, comme Alep. La question qui se pose et sur laquelle j'aimerais que le débat se situe l'espace nécessaire. Est-ce qu'il faut reconstruire Nadal Hassan, effacer les destructions de Daesh à Palmyre?
Moi, je trouve qu'on ne peut pas répondre à cette question par rapport à un niveau théorique ou symbolique, parce que la destruction telle que nous l'avons vue, surtout dans les villes comme Alep, supposera la reconstruction d'une société, et donc un projet de société, un projet idéologique, économique, sociétal, et reconstruire une ville est d'une extrême complexité. La place du patrimoine dans la ville peut être donc un élément catalyseur, un élément de dialogue, pour mettre autour de la table les communautés, pour engager leur participation dans le projet de la ville, etc. Et ça, je trouve que c'est d'une grande complexité et on ne peut pas trancher. Chaque élément dans la ville aura son histoire de reconstruction. Par contre, dans les sites comme Palmyre, qui ont été donc visés pour ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, là, je crois que bien sûr, le débat est ouvert entre laisser les ruines telles quelles pour montrer la dévastation, pour laisser la trace de cet épisode triste et dramatique de l'histoire, ou reconstruire par défiance pour montrer aux destructeurs que la mémoire continue. C'est un débat qui est tellement passionné en ce moment qu'il n'y a pas la sérénité nécessaire pour l'aborder. Et nous pensons à l'UNESCO que ce genre de débat est avant tout multidisciplinaire et avant tout avec les personnes qui appartiennent à ces lieux, qui en sont responsables. Les questions sont posées, mais il n'y a vraiment pas de réponse encore.
Jean-Pierre Perrin.
Oui, la question est fort complexe. D'abord, c'est vrai que c'est déjà demandé l'avis de la population. Il faut savoir aussi que souvent ces sites, lorsqu'ils ont été redécouverts, lorsqu'ils ont été fouillés, lorsqu'ils ont été exploités par les archéologues avec tout un tas de buts derrière, parfois politiques, parfois économiques, parfois purement scientifiques, mais on a souvent chassé les populations locales. Et donc, il y a eu un ressentiment quelque part, même si une partie de ces populations locales ont été employées par les archéologues par ailleurs. Mais le fait de chasser ces populations a aussi entraîné quand même des sentiments de frustration et d'agressivité contre eux. Elles sont souvent identifiées, ces ruines, quand même, aux pays occidentaux. Puisque les archéologues, au départ, étaient britanniques, français, allemands. Donc, ça explique pas tout, mais ça est à prendre en compte aussi dans la volonté de destruction.
Élément important également, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Nadal Hassan, c'est ce côté.
Moi, j'ai du mal avec la notion de pays occidentaux en opposition avec les pays donc dont on parle du Moyen-Orient, parce que je trouve que il y a un grand sens de possession, ou de, c'est-à-dire que les gens de ces pays sentent que ce patrimoine est le leur. Sinon, il y aurait pas eu un Khaled al-Assad qui aurait été pendu, décapité dans son site parce que il y tenait,
Vous parlez de ce
gestionnaire du site de Palmyre
qui a été décapité,
torturé. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que mettre le débat sur un niveau, donc voilà, ce patrimoine est considéré comme occidental et la population ne le sent pas comme sien, etc. C'est un peu dangereux, je trouve. Et quelque part, ça tâche un peu la mémoire de gens qui se sont sacrifiés pour ce patrimoine et qui ont œuvré toute leur vie pour le protéger. Moi, je pense que les gens de Palmyre étaient très fiers de leurs ruines. C'est vrai que le temple de Bel était donc un petit village, que le site était habité, que quand il y a eu les fouilles, on a dégagé le site de ses habitants. C'est vrai tout ça, il y a certainement un ressentiment qui reste chez la population locale. Mais ce patrimoine est défendu par les gens de ces pays. Voilà, j'aimerais qu'on respecte quelque part, voilà, si je puis me permettre, le sens de responsabilité qu'ils ont pour ce patrimoine. Ils n'attendent pas que l'Occident vienne le sauver. Ils sont en train de le sauver.
Le sens de la responsabilité, si j'ai bien entendu l'actualité, les populations autour de Palmyre, les populations locales, se sont relayées jour et nuit pour protéger le site, ce qui va dans le sens de ce que vous venez de dire à l'instant.
À Sirène, il y a des milices. Civils qui font des rondes à Sirène et à Sabrata, qui font des rondes pour protéger le site aussi, par exemple.
Jean-Pierre Perrin.
Oui, je suis d'accord, mais je ne crois qu'on ne peut pas non plus mettre de côté que la religion du musée est une religion occidentale. Alors effectivement, comme toute religion, elle s'est répandue sur la surface du globe, mais au départ, c'est une religion occidentale, le culte du musée. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez en vacances en Sicile, quand vous allez en vacances à Naples, vous allez voir Pompéi, ça va de soi. On a intégré cette dimension, je veux dire que le musée aujourd'hui a un peu remplacé les lieux de culte, l'église, la synagogue, la mosquée, du moins en Occident. Tous les musées finalement procèdent de cette religion du musée que nous avons au départ.
C'est donc une source économique très importante aussi.
C'est une source économique aussi très importante. Mais regardons, puisque vous avez cité la Libye, les grandes cités gréco-romaines ont été totalement ignorées par le régime libyen.
Sauf qu'ils ont été classés patrimoine mondial.
Oui, donc qu'il y avait un intérêt. Ça permettait à un moment donné, par exemple, d'embargo contre la Libye, au régime de montrer qu'il existait sur la scène internationale. Je pense que Kadhafi n'est jamais allé voir un site antique. Jamais. Qu'il associe à la colonisation italienne. Et ce qui n'est pas faux, par ailleurs, puisque c'est sous Mussolini qu'on a redécouvert toutes ces grandes cités gréco-romaines, que des archéologues italiens sont venus, et que le rêve de Mussolini étant de faire revivre l'Empire romain, donc ça se justifiait à ses yeux d'envoyer des archéologues. Et les archéologues n'ont pas travaillé que pour le régime fasciste, ils ont travaillé pour l'histoire, pour la science, pour l'art aussi. Nous avons aujourd'hui ces six beaux sites en Libye, c'est aussi parce qu'ils ont été découverts dans les années 30, redécouverts dans les années 30 par les archéologues italiens, sinon on n'en parlerait même plus.
Et que Kadhafi les a ignorés, donc pas entretenus ces sites, mais pas pour autant détruits. Ce qui est important.
Alors, ce qui les menace en revanche, c'est l'urbanisation galopante qu'il y a le long du littoral méditerranéen libyen, puisque l'essentiel de la population aujourd'hui vit là.
Alors est-ce que ces sites, puisqu'on est en Libye, on y reste, est-ce que ces sites gréco-romains ont été endommagés par la guerre que connaît le pays depuis 4-5 ans maintenant? Quel état des lieux peut-on faire, Nada Alassane?
Nous avons fait une réunion avec les responsables du patrimoine libyen dans toutes les régions de Libye, donc en mai dernier à Tunis. Et donc la conclusion était que le patrimoine était potentiellement menacé, mais que les dommages ne sont pas encore liés à la guerre. Heureusement, les sites ont été épargnés et les dommages les plus importants sont sur le site de Sirène à cause des constructions illégales, donc les habitations illégales qui poussent comme des champignons sur le site. Voilà, et qui donc en l'absence de gouvernance augmente. Il y a eu des destructions intentionnelles dans le centre historique de Tripoli où, comme je disais avant, donc des tombes dans des mosquées ont été profanées. Et puis il y a eu des graffitis dans un site très important dans le désert, un site donc préhistorique. D'art rupestre, Tadrart Akakus. Seulement, on n'a pas, heureusement, de destruction intentionnelle ou de grands dommages sur les sites. Mais il y a quand même une menace potentielle qui pèse et il y a un extrémisme religieux qui laisse donc présager des exactions futures.
Sur la Libye, Jean-Pierre Perrin?
Oui, tout à fait, Akakus qui a été avec les graffitis. Mais là encore, je crois que c'était rien de politique dans ces graffitis.
Alors, les graffitis là-bas ont été endommagés par une personne, donc pour une question, un motif personnel. Mais actuellement, ce site est sur le chemin des migrants et il y a beaucoup de migrants qui transitent dans cet endroit. Donc voilà, il y a des risques potentiels liés aux migrations importantes qui passent dans cet
endroit. Oui, et une deuxième chose sur la Libye, c'est que nous avons deux gouvernements gouvernements, ce qui ne facilite pas les choses. Qui dit deux gouvernements, deux directions différentes archéologiques. Donc, évidemment, ces archéologues ont un passé commun à défendre, mais les pesanteurs politiques sont telles qu'ils ne sont même pas en contact les uns avec les autres. Ils le sont parfois à l'occasion d'une conférence internationale, mais en Libye même, je crois qu'ils peuvent même pas se téléphoner, ce qui est quand même un peu accablant.
Alors, je ne sais pas si on va parler à nouveau de l'Irak. En tout cas, l'autre pays qui est vraiment sous les feux de risque de destruction quasi totale, c'est évidemment le Yémen. Nada Al-Hassan, qu'est-ce que l'on sait des dégâts sur le Yémen sous les feux de bombardement saoudien en particulier?
Le Yémen a subi beaucoup de dommages, donc à part la situation humanitaire dramatique et donc ce que subit la population partout dans ces pays, donc c'est à eux que je pense au début. Il y a eu beaucoup de destructions à Sanaa, il y a eu donc des quartiers qui ont été rasés, plusieurs quartiers ont été touchés, notamment celui de Al-Qassimi. Il y a des sites comme Taiz qui ont été donc aussi bombardés. Marib, des sites vraiment importants, et maintenant donc on commence à voir des destructions intentionnelles dans des mausolées soufis, et le Yémen est très très riche, il y a beaucoup de mausolées donc du Moyen-Âge au Yémen qui commencent à être intentionnellement détruits. Le Yémen est un pays sinistré, isolé et avec très peu de communication malheureusement avec l'extérieur.
Alors, plus que vous ne le dites pas, je vais le dire, quand même 80 ou 90% des destructions sont quand même le fait de l'aviation saoudienne et de ses alliés.
Je l'ai dit juste en introduisant le sujet. Mais...
Oui, je veux dire, effectivement, là encore, il y a des bombardements saoudiens parce qu'ils sont en train de traquer sous les bombes la dissidence ou la rébellion houthi, mais je crois que ça va bien plus loin. Je crois qu'il y a une volonté délibérée de Riyad d'anéantir le patrimoine historique du Yémen, pas seulement les superbes maisons que l'on connaît de Sanaa, mais il y a eu un musée célèbre qui a été pulvérisé avec des pièces qui pouvaient dater jusqu'aux 3500 ans avant Jésus-Christ. Et là, on ne voit pas très bien la raison militaire. L'attaque contre les vestiges du barrage, du célèbre barrage de Ma'arib, on comprend pas non plus pourquoi ce barrage aurait fait l'attaque ciblée de l'aviation saoudienne. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Par exemple, Saada, qui est la capitale de la rébellion houthi, là où le mouvement est parti, la ville était déclarée zone de guerre, c'est-à-dire qu'on peut tout y faire, on peut la raser. Donc il y a une volonté délibérée de la part des Saoudiens et de la coalition autour, parce qu'ils ne sont pas les seuls à bombarder, même s'ils font 80% du boulot, d'anéantir le patrimoine yéménite. Et là, c'est là que nous devons quand même un peu nous interroger. Qu'est-ce qu'on fait pour les freiner? Quels sont nos moyens de pression? Parce que vous savez, les Saoudiens sont sensibles à la pression. Et là, je crois que c'est zéro quand même. Et là, nous avons une culpabilité qui est assez effrayante.
Alors justement, comment est-ce que la communauté internationale peut agir face à ces destructions, ces pillages? On a le sentiment qu'on a toujours un peu une guerre de retard. Alors, je le disais en introduction, il y a eu début décembre une conférence internationale pour la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit qui s'est tenue à Abu Dhabi avec l'ambition de créer un fonds de lutte contre le pillage du patrimoine culturel et d'assistance à la restauration ou réhabilitation. Nada Al-Hassan, une conférence comme celle-là
Oui, bien sûr que par rapport à toutes ces destructions, et aussi 5 ans ou 6 ans plus tard, cela paraît peu, mais j'étais à Abu Dhabi à cette conférence, et ce qui m'a semblé être important, c'était la mobilisation internationale autour de la question du patrimoine. Mobilisation qui jusqu'à ce jour se faisait donc pays par pays, et surtout où on n'entendait pas la voix des pays arabes. Et là, à Abu Dhabi, donc c'était une conférence co-organisée par la France et les Émirats Arabes Unis. Et il y avait beaucoup de représentants de haut niveau, des pays arabes entre autres. Il était temps qu'il y ait une participation arabe à ce débat et une contribution.
Quel a été le discours des pays arabes précisément dans cette conférence?
Le discours a été contre la destruction du patrimoine, contre la destruction de la diversité culturelle, contre l'anéantissement de la culture des autres. Mais bon, bien sûr, on est face à des contradictions, bien sûr.
Jean-Pierre Perrin.
Oui, enfin, on peut remarquer quand même que la conférence a lieu à Abu Dhabi, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis, pays qui participe à la destruction du Yémen. Cher Zayed, par exemple, le fondateur des Émirats Arabes Unis, se réclamait de son ascendant yéménite. Il disait même qu'il était originaire de la région de Ma'arib. Et il disait que c'était la destruction, justement, du barrage, du célèbre barrage, qui avait provoqué l'exode des tribus yéménites. Et c'est pour ça qu'il s'était installé dans les parages du Golfe Persique. C'est pas essentiel, si vous voulez, mais quand même. La défense du patrimoine reste quand même quelque chose d'assez faible dans les pays arabes. Je crois que c'est le parent pauvre, voilà. Sous Saddam Hussein, on enseignait...
En Irak.
En Irak, absolument. On enseignait la glorieuse Mésopotamie, on enseignait Babylone. Mais tout ce qui relevait des régions chiites, on l'ignorait, ou des régions kurdes, on l'ignorait. Et puis après, remplacé par un gouvernement à dominante chiite, et ben on a un phénomène inverse, et ainsi de suite. Donc il faut quand même que les pays arabes, globalement, prennent intégralement leur histoire, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, et pas seulement trier leur histoire en fonction de catégories religieuses, ce qui est le cas de quasiment tous les pays arabes.
Alors, vous avez introduit une notion sur laquelle nous n'étions pas encore venus discuter, c'est la question chiite, Jean-Pierre Perrin. C'est vrai que les sites les plus menacés sont globalement les sites gréco-romains, mais les lieux chiites de culte, Nada Al-Hassan, sont également la cible de destruction volontaire.
Oui, dans le cas des destructions intentionnelles par Daesh, tout ce qui n'est pas eux est détruit. Tout ce qui est, on a vu aussi la destruction de patrimoine yézidi. Et en effet, c'est tout ce qui est l'autre. Par contre, sur la question du rapport entre pouvoir et patrimoine, je voulais juste signaler, sans m'opposer à vos propos, la question de ce rapport donc inhérent à tout choix concernant le patrimoine. Le pouvoir a toujours son choix à faire, que vous soyez la France, les États-Unis ou le Yémen. Quand vous choisissez un site, par exemple, à inscrire sur la liste du patrimoine mondial, vous choisissez ce qui doit vous représenter. Et les choix se font, parfois se font malgré les minorités. Et je parle, par exemple, de minorités autochtones aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Je veux dire, il y a toujours un rapport complexe entre la représentation du patrimoine et les questions politiques. Maintenant, il est vrai que dans les pays arabes, l'enseignement du patrimoine est très faible et il faut, comme vous le dites, que ce soit beaucoup plus partie de la société pour le protéger. Voilà, je voulais dire que cette relation est très complexe. Saddam Hussein avait privilégié les sites mésopotamiens. C'était le cas aussi en Syrie où les sites préhistoriques ont été privilégiés par rapport à d'autres. Et voilà, donc c'était juste une parenthèse pour revenir sur cette question qui me paraît importante.
Une parenthèse qui nous conduit peut-être à la conclusion. On n'a pas parlé un petit peu rapidement du trafic d'antiquités qui sert à alimenter la guerre. Est-ce que le marché légal d'antiquités est aussi complice de ces trafics? Quels sont les grands parcours? Peut-être un mot de conclusion, Jean-Pierre Perrin.
Oui, quelque chose qui m'a frappé lorsque je suis allé sur le site de Bamiyan en Afghanistan au mois de mai. Donc, les Bouddhas ont été pulvérisés. À la place, nous avons des niches avec simplement des tas de cailloux aux pieds, ce qui reste des Bouddhas. Et là, au bazar, au souk, si vous voulez, de la ville de Bamiyan, j'ai trouvé une iconographie intéressante. Des artistes locaux ont remplacé, par dérision, par ironie, les Bouddhas manquants par le tchadri. Le tchadri, c'est l'équivalent du tchador, c'est le tchador afghan, si vous voulez. Et donc, finalement, destruction du Bouddha renvoie au sort de la femme. Et c'est tout à fait, comment dire, pertinent. Vous voyez, on voit dans les peintures que l'on vend, qu'on peut acheter tout à chacun, eh bien on voit le Bouddha remplacé par le chadri de la femme afghane, et ça montre un petit peu la relation qu'il peut y avoir, la volonté de nuire à l'autre, parce qu'en Afghanistan quand même, souvent les femmes sont traitées comme du bétail, n'ayons pas peur des mots. Et donc la relation entre le Bouddha et la femme afghane, elle s'est faite par l'intermédiaire des artistes. Et je trouve que c'est un sujet de réflexion pour terminer.
Vous souhaitez rajouter quelque chose, Nada Al-Hassan?
Moi, je voudrais insister sur le fait que il s'agit pas pour moi d'un d'une guerre de civilisation si nous décidons de ne pas en faire une. Pour le moment, tout le monde polarise le débat autour de cette guerre de civilisation. Moi, je trouve que on se fait instrumentaliser et on tombe dedans. Il faut sortir de là. C'est signaler le cynisme des destructeurs du patrimoine et travailler plus sur ce qui unit surtout les jeunes de ce monde.
Voilà. Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités Nada Al-Hassan, chef d'unité des États arabes au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, et Jean-Pierre Perrin, spécialiste du Moyen-Orient, longtemps grand reporter pour le quotidien Libération et auteur de Menaces sur la mémoire de l'humanité, sites en péril de l'Afghanistan à la Syrie, paru aux éditions Eubek. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin et Nathalie Laporte. À très bientôt.